je viens d'un peu plus. D'abord, vous trouvez le commentaire du Ora Chaim, c'est un très grand commentateur de la Torah, qui posait la question suivante d'après un autre principe. Il dit que nous avons un principe que lorsque Dieu veut avertir d'une punition, avant d'atteindre l'homme, il atteint sa maison. La maison, les pierres. Par exemple, en schématisant beaucoup, Israël a désobéi à la Torah, alors Israël aurait dû disparaître, mais ce n'est pas lui qui a disparu, c'est le temple. C'est-à-dire Dieu a frappé les pierres et pas le peuple. Alors, vous comprenez, c'est chesed, c'est une grâce. C'est-à-dire que pour Israël, les pierres des maisons sont frappées avant les vêtements, et les vêtements avant le corps, et le corps avant la... Et là, tout le problème de l'histoire de Job, lorsque Dieu a demandé au Satan d'éprouver Job, et alors il a été atteint d'abord dans ses possessions, etc. Et Dieu a donné comme consigne au Satan, surtout ne touche pas sa personne intérieure. Oui. Alors là, Chaim pose la question suivante. En quoi c'est une bonne nouvelle? Il faut le voir dans le texte. Kitabou el eretz Kanaan. Lorsque vous viendrez dans le pays de Canaan, cette règle jouera qu'on frappe la maison avant l'homme. Vous avez compris? Donc, je voulais d'abord expliquer en quoi c'est une bessora. Puisque dans les textes précédents, les lois concernant l'impureté de l'homme sont données avant l'impureté de la maison. Alors le roi Chaim a posé la question suivante, il aurait fallu que dans les textes, l'ordre soit l'impureté de la maison d'abord, et ensuite on s'occupe de l'impureté de l'homme. Pourquoi l'ordre était inverse? C'est parce qu'ils étaient encore en dehors des restes d'Israël. Quand ils sont en dehors des restes d'Israël, c'est l'inverse. C'est les personnes qui sont frappées, parce que les gens n'ont aucune importance, finalement. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que, quitte à vous, elle reste Canaan. Lorsque vous viendrez dans le pays de Canaan, alors cette règle jouera que c'est dans la maison que viendra la clé. Vous avez bien compris. Et là, ça me permet d'éclairer le quitte à vous, elle reste Canaan. En hébreu, il aurait fallu qu'il y ait quitté Rechou, elle reste Canaan. Puisque les hébreux se trouvaient dans le désert, et par conséquent, il fallait leur dire lorsque vous irez dans le pays de Canaan. Mais le texte dit lorsque vous viendrez dans le pays de Canaan. De là, on apprend que celui qui parle dans la Torah parle des restes d'Israël pour dire lorsque vous viendrez, même lorsqu'ils vous tarderont, et pas lorsque vous irez. Ça n'a aucun sens de dire lorsque vous irez en restes d'Israël, il faut toujours dire lorsque vous viendrez. Parce que c'est toujours un revenu, un retour. Enfin, je voulais dire en hébreu la différence entre la lechet et la route. Vous voyez que... pour vous donner un petit exemple de l'exégèse du Midrash, voilà, lorsqu'un goy lit ces textes, il ne comprend rien du tout, parce que... Alors revenons au texte. Eh bien, l'idée est, je crois maintenant, éclaircie. Ça veut dire que ce que le texte veut nous faire comprendre, c'est que cette plaie nous permet de déceler qu'à l'intérieur, il y a une valeur. Il n'y a que ceux qui sont capables d'avoir une valeur à l'intérieur qui ont des plaies à l'extérieur. Nous revenons toujours donc au même principe. Et par conséquent, de nouveau, cette identité du lépreux qui semblait être diffamante dans la Torah pour désigner Israël devient au contraire un chevard, devient au contraire une louange. Ça veut dire seul Israël est capable d'être défini comme lépreux. Comme le lépreux qui est isolé par rapport au camp, Israël est isolé par rapport au goyim. Est-ce que vous comprenez l'idée qu'il y a là? Bien entendu, il ne faut pas identifier cela au niveau des événements individuels de chacun, etc. Mais cela signifie que lorsque l'on se trouve à un certain niveau d'évolution, alors on se trouve vulnérable. Et plus on est délicat, si j'ose dire, et plus on est vulnérable. Donc c'est toujours le même principe. Enfin, les animaux inférieurs sont moins sensibles aux maladies que les animaux supérieurs. Et par conséquent, plus on est sensible à la maladie, et plus ça signifie qu'on est avancé dans le principe de la Kedusha. Alors ce sera une grande consolation pour le sort de l'identité humaine. Ça éclaire beaucoup de choses. Mais arrivons quand même au verset de la Sidra de Kedushim. Je crois qu'on arrêtera avec ce verset. Et je voudrais... étudier, je ne sais pas si nous l'avons déjà fait, le verset de « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » qui se trouve précisément dans ce chapitre. Je vous donnerai la référence. C'est le verset 18 du chapitre 19 du Lévitique. Il y a deux parties dans le verset. La première partie dit ceci. « Lotikom velotito et bene amer. » Tu ne tireras pas vengeance et tu ne garderas pas rancune et bene amecha vis-à-vis des enfants de ton peuple. Tirer vengeance et garder rancune, ce sont quand même deux attitudes un peu différentes. Mais je voulais surtout mettre en évidence ce fait que dans le verset, il s'agit bene amecha, des enfants de ton peuple. C'est-à-dire que cela désigne bien les membres d'un groupe donné duquel on fait partie. Et pourquoi je vous indique cela? Parce qu'il y a ce grand conflit autour de ce que serait l'interprétation juive ou l'interprétation chrétienne, enfin en général non juive du verset, c'est-à-dire de savoir si la Torah nous a ordonné de n'aimer que nos propres concitoyens ou s'il ne faudrait pas les substituer une autre religion où on indiquerait qu'il faut aimer tous les hommes. Vous comprenez à quel conflit je fais allusion? Et alors, les théologiens juifs, surtout pendant ces 2000 ans de l'exil, ont dépensé toute une ingéniosité considérable pour essayer de persuader les goïms que ça voulait bien dire « tu aimeras ton prochain comme toi-même », ça veut dire tout le monde et pas seulement les juifs. Et pas seulement les gens. Nous voyons que ce n'est pas vrai. Alors, il faut comprendre en quoi ce n'est pas vrai. En quoi c'est normal que ce soit pas vrai. Je ne vous ai pas encore lu la fin du verset. Mais déjà dans la première partie du verset, nous voyons « tu ne garderas pas rancune ». Et où tu ne te vengeras pas, bene amecha, des membres de ton peuple, c'est-à-dire des membres de ton groupe avec qui tu es. Et ve'afta le re'acha kamocha, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est encore plus restreint. Le re'ar est encore plus restreint que le bene amecha. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors reprenons donc ce problème de fond en comble. D'abord, pourquoi la Torah enseigne contre ce danger de la haine chez les gens qui sont proches les uns des autres? Parce que la Torah enseigne pour la réalité concrète comme elle est. Et le phénomène social pose un certain nombre de problèmes de relations de personne à personne, mais lorsqu'il s'agit de relations concrètes, d'autrui avec qui je suis vraiment en relation, et plus les relations sont proches, et plus le risque de la rivalité est grand. Par conséquent, si la Torah a à me prévenir qu'il faut prendre garde à ne pas risquer de tomber dans la tentation de la haine ou de la rivalité ou de l'agressivité vis-à-vis d'autrui, c'est surtout autrui le plus proche que ça concerne. Celui qui est loin, ça ne le concerne pas. Est-ce que vous avez bien compris cela? Ça veut dire, toute cette thèse concernant le fait qu'il faut dire tu aimeras ton prochain, mais ça veut dire celui qui vit aux antipodes, c'est irréel, c'est utopique, c'est beau, c'est de l'éthique, mais c'est pas de la kedusha. Parce que ça ne concerne pas la réalité réelle. Vous comprenez? Il y a écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, on traduit comme ça, mais Réar, c'est celui qui est le plus proche, c'est encore plus proche que les enfants de ton peuple. Il n'y a pas écrit, tu aimeras ton lointain comme toi-même. Parce que aimer le lointain, ça n'engage en rien. Ça n'engage en rien. Oui. Non, oui, vous comprenez le problème que je voulais poser. C'est-à-dire, on fait une querelle à l'église juive de ce verset. En lui opposant l'idée utopique de l'amour universel, mais je voudrais expliquer pourquoi ça n'est pas nécessaire. À ces lois, il y a une préface. Et de cette préface, je vous ai déjà parlé tout à l'heure. Le Dieu que nous reconnaissons en reconnaissant la Bible comme code, c'est le Dieu qui a créé tous les hommes. Et d'ailleurs, c'est la seule religion, c'est le seul message où on admet vraiment que c'est le même Dieu qui a créé tous les hommes. Par conséquent, l'idée qu'il faut respecter la dignité de la personne humaine en qui que ce soit, ça va déjà de soi. Si on n'a pas d'abord accepté cela, on ne peut pas accepter la Torah. Vous comprenez? La Torah n'est donnée qu'à ceux qui ont déjà accepté l'idée que tous les hommes sont frères. Et ça a été une conquête dans l'histoire des cultures humaines, alors que c'est le point de départ de l'histoire de la culture d'Israël. Pour nous, c'est une petite phrase dans le Talmud qui pose la question de manière innocente, comme d'habitude. Pourquoi la Torah a tenu à nous raconter que nous avons eu un premier homme? Un. Et elle répond, pour que personne ne puisse dire à quelqu'un d'autre, ton sang est inférieur au mien. Et voilà, c'est réglé. Et ça concerne tous les hommes. Est-ce que c'est bien clair? Ça veut dire, nous n'avons pas besoin d'un verset pour ça. Si nous avions besoin d'un verset pour nous dire tous les hommes sont frères, nous ne serions pas Israël. On a donné la Torah qu'à un Israël pour qui ça va déjà de soi. Alors, ceci dit, Le véritable risque de la rivalité vient de la compétition des membres d'Israël entre eux. Vous comprenez? Pourquoi? C'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi? C'est pas pour rien que ce verset est donné à Israël. Pourquoi? Parce que il s'agit du rassemblement d'individus qui sont polarisés, si j'ose dire, vers la même tentative. Et par conséquent, inévitablement, il y a compétition entre eux. Et le risque, le danger, c'est que la compétition se transforme en rivalité. On a à dire, tu aimeras ton prochain comme toi-même, qu'à celui qui est dirigé vers un but analogue. D'ailleurs, le tchad du verset, comme nous allons voir, c'est tu aimeras ton prochain qui est comme toi-même. Pour quelqu'un qui ne serait pas comme toi-même, la question ne se pose même pas. Il n'y a pas de risque. Il n'y a que pour celui qui est kamocha, comme toi, qu'il y aurait le risque. Alors on lui dit, aime-le. Juste d'afka parce qu'il est comme toi, c'est dangereux. Oui, tout est remis sur pied. Effectivement, c'est un antisémite. D'ailleurs, comment la Torah a pris la précaution de nous raconter l'histoire à cause de laquelle il faut que nous ayons cet enseignement. C'est l'histoire de Caïn et d'Abel. C'est la guerre. C'est plus que la guerre, c'est la haine. La haine la plus grave, c'est entre les gens les plus proches. Regardez l'humour de cette histoire. Non seulement ils étaient frères et ça aurait suffi, mais c'est des frères jumeaux. Ça veut dire plus il y a analogie et plus il y a danger de... Et nous sommes renvoyés d'ailleurs, non seulement aux grandes perspectives de l'histoire générale, mais à l'histoire intérieure de chaque groupe, de chaque famille, de chaque identité. Plus il y a analogie entre deux destinées et plus elles risquent de devenir rivales. Et donc si la Torah avait à donner un avertissement, une exhortation, c'est précisément de nous dire, dans le sens strict du pshat du verset, tu aimeras celui qui est proche de toi, comme toi-même. Parce que c'est ça qu'on fait jamais, et qu'on fait semblant de faire. Alors que dire qu'il faut aimer celui qui est loin, c'est l'alibi pour ne pas aimer celui qui est à côté. Or, ce n'est que par rapport à celui qui est à côté que la question se pose réellement, que la question se pose vraiment. Est-ce que c'est bien clair? Alors, nous pouvons maintenant approfondir le verset pour lui-même. En hébreu, la forme qui est employée, c'est « ve'ahavta l'erecha »« Ahov-le »« Aimer pour quelqu'un ». Ce n'est pas la forme transitive directe « ahov-et » qui est employée. Et on s'aperçoit dans l'étude du vocabulaire de la Torah que la forme « ahov-et », la forme directe, transitive, n'est employé que pour l'amour pour Dieu. Ve'afta et Hashem Elokecha. Pourquoi? Parce que finalement, qu'est-ce que ça veut dire aimer au fond? C'est ça le fond des choses. Qu'est-ce que ça veut dire aimer? Du point de vue de l'enseignement talmudique, aimer ça peut vouloir dire des tas de choses. Du point de vue de l'enseignement talmudique, ça veut dire vouloir ce que l'autre veut. C'est ça aimer. S'il y a une raison autre que celle-là, eh bien, ce n'est pas, ce n'est pas l'ishma, ce n'est pas vraiment Ahava, ce n'est pas vraiment de l'amour. Il y a une Mishnah de Pirkei Avot qui est très connue et qui dit Ahava, c'est plus Yavadavar, et Nahava. L'amour qui dépend d'une raison, je t'aime parce que, ce n'est pas de l'amour, parce que Betela Adavar, Betela Ahava. Si la raison disparaît, l'amour disparaîtra aussi. C'est-à-dire si vous demandez à quelqu'un pourquoi tu m'aimes et qu'il vous donne une réponse, il faut être inquiet. Parce que s'il y a une raison, c'est que l'amour n'est pas réel. Et finalement, la définition la définition que dans le Talmud est claire, c'est vouloir ce que l'autre veut. Pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi, parce que c'est lui. Et par conséquent, ces deux formes grammaticales pour dire aimer quelqu'un sont importantes. Celle qui concerne Dieu doit être de nature différente que celle qui concerne quoi que ce soit d'autre. Pourquoi? Parce que ce serait de l'idolâtrie. Ce serait la définition de l'idolâtrie. Vouloir ce que quelqu'un d'autre que Dieu veut, c'est déjà ça l'idolâtrie. Vous voulez qu'on analyse ce principe ou bien c'est suffisamment clair? On n'est pas plus. C'est-à-dire, s'adonner à n'importe quel but, à n'importe quel idéal, de façon partielle, Eh bien, finalement, c'est se détourner, c'est ce qu'on appelle Avoda Zara. C'est Avoda, mais c'est Avoda Zara. C'est se détourner de l'objectif et de la perspective, de la tentative d'identité qui définit Israël. C'est à Israël que ces commandements sont donnés. C'est pas au berger et à la bergère. C'est à Israël comme nation que ce commandement est donné. Ce qui définit donc Israël, c'est le fait qu'il est Eved, qu'il est soumis à la volonté du Créateur et que toute son histoire s'est réalisée ce qu'a voulu le Créateur en créant le monde. C'est ça la Avoda d'Israël. Et si on dérive, si on capte, de cette Ahava pour la donner à quelque idéal que ce soit, c'est Avoda Zara. Est-ce que c'est bien clair? Essayons de lire le verset comme s'il était écrit avec Et. Il y aurait Ve'ahavta Et Re'acha, alors ce serait une idolâtrie très connue qui s'appelle l'humanisme. Ça veut dire adorer l'identité humaine en autrui en tant que tel. Et c'est une idolâtrie grave. Oui, toute cette espèce d'impropriété de dialogue que nous avons avec les humanistes en général et les socialistes en particulier, c'est le fait que dans le vocabulaire ça ressemble, mais qu'arrivé à l'essentiel, on s'aperçoit qu'il ne s'agit plus de la même chose. Pour donner le signe révélateur de notre différend avec le monde socialiste, incarné dans l'Union soviétique en particulier, pendant très longtemps, les juifs de Russie, qui ont fait le communisme avec les communistes, qui se sont donnés à cela en croyant que c'était la même chose, en croyant que Ve'ahavta et Re'acha serait la même chose que Ve'ahavta le'Re'acha, eh bien, ils ont fait, comme disent les marxistes, un bout de chemin ensemble, jusqu'à ce moment où ils se sont aperçus qu'il faut choisir, ou bien on est soviétique, ou bien on demande l'immigration d'Israël, que ça puisse arriver ça. Jusque-là, à Kedekar, c'est l'indice que ce n'est pas la même chose. Que le respect du prochain n'a pas du tout la même valeur. Vous comprenez? Parce que c'est une espèce d'idole, de faux idéal qui consiste à ériger autrui de façon utopique et irréelle comme principe du bien et du mal. Et c'est une morale qui ne correspond pas à la réalité puisque dans la pratique, eh bien, on supprime autrui, en fait. On devient totalitaire, on devient fasciste, bien que... etc. Enfin, je vous décris ça à grands traits pour indiquer de quoi il peut s'agir. Le fait d'avoir érigé l'identité de l'homme comme valeur suprême à la place du projet du Créateur pour l'identité de l'homme a sapé les bases de la morale. Au nom de la morale, on a fait le contraire. Est-ce que c'est bien clair? Vous voyez, ce danger de cette idolâtrie qui serait l'humanisme, entre guillemets. Et en fait, l'expression que nous avons là est très précise. Ça veut dire « Ve'ahavta », sous-entendu « et Hashem Elokecha », tu soumettras ta volonté à la volonté du Créateur, c'est ça, aimer le Créateur, « Le're'acha » pour ton prochain. C'est-à-dire tu feras passer par ton prochain l'amour qui va vers le Créateur. Donc le lamad doit être traduit comme il est écrit. Voilà. Et je voudrais vous donner une vérification dans le texte lui-même. Parce qu'il y a écrit Ve'ahavta le're'acha kamocha. Il n'y a pas écrit Ve'ahavta le're'acha kelecha. Vous comprenez? Si ça voulait dire tout simplement tu aimeras ton prochain comme toi-même, dans le sens de comme tu t'aimes toi-même, il y aurait Ve'ahavta le're'acha kelecha. C'est clair. Mais il y a Ve'ahavta le're'acha kamocha. Et le sens est tout à fait autre. Ça veut dire tu aimeras ton prochain parce qu'il est comme toi-même. Et non pas que tu l'aimeras comme toi-même. On peut garder aussi ce sens de tu l'aimeras comme toi-même, c'est un joli drache, mais ce n'est pas le pshat. Vous comprenez? Et là, nous revenons donc à l'explication que nous avons eue tout à l'heure. C'est précisément parce qu'il est comme toi-même qu'il faut que tu l'aimes, qu'il faut que tu saches d'être prévenu de cela que tu risques d'avoir de la haine contre lui. Voilà, je revenais au principe de tout à l'heure, que c'est le risque de la compétition. Vous savez, on peut éclairer cela par un enseignement du Talmud qui nous dit qu'en fin de compte, si le temple a été détruit en Israël, si les catastrophes viennent dans l'histoire d'Israël, c'est finalement, en fin de compte, pas parce qu'il y a des crimes. En Israël, il n'y a pas l'idolâtrie, en Israël, il n'y a pas le meurtre, en Israël, il n'y a pas la débauche, etc. Quand il y a, les prophètes mettent ça en épingle. Alors les goïms, qui sont un peu naïfs, croient que vraiment les prophètes accusent l'identité d'Israël. C'est l'inverse. Vous comprenez? Et on a mis en épingle le fait que comment il peut arriver en Israël qu'il y ait aussi ça. Alors on a mis ça en épingle de façon, en gros plan. Mais en fin de compte, on nous dit que si le temple a été détruit, c'est à cause de Sinat Hinam. Sinat Hinam, ça veut dire la haine gratuite. C'est-à-dire cette haine qui n'a pas de raison, parce qu'elle ne résulte que de ce fait de la compétition des personnes qui devient la rivalité, puis l'agressivité, puis la haine. C'est-à-dire les différentes manières d'être Israël qui risquent d'être en compétition entre elles, et c'est pourquoi le texte dit très clairement « Ve'ahavta le'reacha kamocha », c'est-à-dire « Fais attention Israël, parce que tu es Israël, tu dois être prévenu de cela, qu'il faut que tu aimes ton frère comme toi-même. » Oui, j'ai intentionnellement un peu forcé les nuances pour inverser le sens complètement, pour essayer d'expliquer toute cette controverse qui a duré 2000 ans sur ce verset, n'a aucune base. Et qu'il faut lire les choses comme elles sont écrites, c'est beaucoup plus important. Est-ce que c'est bien clair? D'ailleurs, j'ai vérifié ça dans les évangiles, et il me semble que la manière dont cette idée de l'amour du prochain est reprise dans les évangiles, exactement, va dans le même kivoun. Cette phrase a été dite de façon un peu différente. Et quant à vous, aimez-vous les uns les autres, elle a été dite aux apôtres. C'est-à-dire, voilà, les apôtres, c'était quoi? Enfin, c'est un récit mythique d'une partie d'Israël qui a décidé de se dénaturer pour aller évangéliser, c'est-à-dire, au fond, judaïser les goïms. Ça, les chrétiens ne s'en rendent pas compte. C'est que plus ils sont chrétiens, plus ils sont juifs. Ils nous disent le contraire, comme d'habitude. Vous savez qu'ils écrivent à l'envers. Mais donc, ils lisent à l'envers. Mais c'est-à-dire le personnage central des évangiles est censé leur dire, dans ce mythe, « Quant à vous, aimez-vous les uns les autres. » Et il s'adresse aux apôtres. C'est-à-dire, vous êtes chargés de ce tafkid qui consiste à enseigner la Bible aux païens, alors faites attention, vous risquez de devenir rivaux entre vous. Vous, les apôtres, aimez-vous les uns les autres. Vous voyez que ça va un peu dans le même sens. C'est le pshat des évangiles. Bien, là je vois que l'heure a bien avancé. Bon, voilà les quelques versets sur lesquels je voulais vous inviter à réfléchir. Si vous avez des questions, on peut prendre quelques minutes. Il est 9h.
Pardon ?
Il est 9h. Oui.
L'enfant amour. Non. Au fond, si l'amour signifie vouloir ce que veut ce que veut l'autre, les enfants doivent aimer leurs parents puisqu'ils doivent vouloir ce que les parents veulent pour eux. Au fond, il est difficile de relancer la question. On ne peut pas faire vouloir ce que veulent les enfants si c'est contre.
Ah, je comprends votre question. Eh bien, effectivement, l'analyse que nous avons eue nous éclaire. C'est-à-dire qu'il faut vouloir pour les enfants ce que Dieu voulait pour eux. Le ve'ahavta est toujours « les ». C'est suffisamment clair. Et il faut vouloir pour eux ce qu'ils devraient vouloir eux-mêmes. Mais comment on peut le savoir? On peut le savoir que si on connaît le projet du Créateur pour cette industrie qui s'appelle la fabrication humaine. C'est la raison pour laquelle nous avons d'ailleurs dans le verset qui suit « Ish et aviv et imo tiraou, vechavetotai tishmorou » C'est-à-dire l'homme doit respecter son père et sa mère et respecter le Shabbat de septième jour. Ça veut dire que le véritable amour pour la créature, c'est de vouloir ce que Dieu veut pour elle. Il n'y a pas écrit Ve'ahavta et Re'acha, il y a écrit Ve'ahavta le Re'acha. C'est-à-dire tu attribueras à ton prochain ce que Dieu veut. Oui, ça arrive d'être dangereux. Non, vous avez raison. Ça risque d'être dangereux si on n'a pas affaire à des gens de bonne foi. Si quelqu'un vient vous dire, moi je sais ce que Dieu veut pour l'autre, c'est un fasciste en l'air. C'est ce que vous voulez dire. Ça veut dire que ça ne peut être admis que de quelqu'un qui sait vraiment ce que Dieu veut, à ce niveau-là.
Alors
non, pas du tout, pas du tout. Demain, c'est pourquoi je vous disais, il faut vraiment savoir ce que Dieu veut pour l'homme. Et écoutez, je vous ai donné des petits exemples tout à l'heure, puisque lorsqu'on lit la Bible attentivement, avec la tradition d'Israël, on s'aperçoit que très souvent les choses veulent dire vraiment le contraire de ce qu'on leur fait dire d'habitude. Vous vous rappelez du principe de la Kedusha, de la Touma, etc. Alors, ces idées piétistes des religions humaines inventées par l'homme, que le fait qu'un homme soit malade, ça s'appelle la volonté de Dieu, ça pour un hébreu, c'est shtuyot, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu veut qu'un homme soit malade ? Ça n'a aucun sens. Il faut remettre les choses à l'endroit. Vous comprenez ? Ouais. D'ailleurs, il y a un verset qui dit qu'il y a ni Hachem Rofecha. Madame, on peut finir. Je voulais ajouter un petit détail. C'est un enseignement du Talmud. Il y a un verset où il y a l'amour pour sa propre femme avec l'expression et. Les Hov et Ishto. Et ce verset, qui est-ce qui le prononce ? C'est l'esclave qui ne veut pas être libéré. Alors il dit Ahafti et Ishti. Vous entendez en hébreu ce que ça veut dire. Ça veut dire précisément dans quelle situation il est. Il est dans la situation d'un idolâtre qui ne veut pas redevenir libre pour le service de Dieu parce qu'il est asservi à l'idolâtrie de sa femme. Comment il s'exprime Ahafti et Ishti. Vous voyez ? C'est le Hevel. Il n'y a pas d'autre cas.
Dans le langage populaire, on peut
parler avec c'est Ivrit de Maharit. C'est vrai que c'est la bière de Ivrit de Maharit. Nous, c'est Maharit.
Vous dites que vous êtes sur la mais à qui voulez-vous que vous les femmes, c'est bien
écoutez, Moïse aurait pu décider d'être le Moïse de l'Égypte. Moïse aurait pu... Non. Moïse aurait pu décider d'être le Moïse de Midian, quand on voit bien l'histoire de Moïse. C'est parce que Moïse a diagnostiqué que c'est les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui sont ce peuple à qui est destiné le dévoilement du mode d'emploi de l'histoire, et que l'enseignement est donné sous cette forme, parle aux enfants d'Israël, ça veut dire que la signification de la loi qui va leur être proposée dans tel ou tel verset se relie à leur identité en tant qu'ils sont les enfants d'Israël. C'est ça que je voulais mettre en évidence. Vous savez, madame, le Midrash a donné un exemple pour ces questions dont nous avons parlé en disant ceci. Il y a deux malades. L'un qui peut guérir. Alors le médecin lui donne des ordonnances comme ça, c'est Torah de Moshe. Il dit, ça tu fais pas. Ça tu... Et un autre qui ne peut pas guérir. Il dit, toi tu peux. Tout est permis. C'est ça la différence. Pourquoi Israël a tellement de lois ? Parce que c'est un malade qui peut guérir. Et le malade c'est quoi ? C'est l'histoire dans ce monde-ci. Il peut guérir, alors il a des ordonnances. Ça c'est Torah Midrash. Et puis les goïms, on leur permet tout. Et voilà quelle est la phrase, Hassidou Mouta Olam, nous serons avec la Olam Abba. Ce n'est pas les sages, c'est les pieux, Hassidim, Hassidim de Mouta Olam. Et par conséquent, ça ne veut pas dire n'importe qui. Il y a chez tous les peuples, quand on dit les peuples, ça veut dire une manière d'être homme définie par une nation, par une identité collective. Cette identité collective comme telle n'a pas d'avenir. Je m'explique. Être homme, ça a un avenir. Mais être telle manière d'être homme, les aspects. Telle manière d'être homme, je ne sais pas, je vous prends des exemples de l'Antiquité pour ne pas être trop brutal. Mais on pourrait prendre des exemples dans la contemporanéité, ce serait la même chose. Cette manière d'être homme-là, en elle-même, n'a aucune kedusha, n'a aucune valeur. Les individus peuvent être des chassidim, mais comme individus, ils sont sauvés. Mais leur manière d'être de l'identité collective, l'égoïsme, il n'y a pas d'avenir pour l'égoïsme. Pour les chassidim de Oumant Arolam, il y a un avenir. Voilà la différence. Pour Israël, c'est l'inverse. C'est en tant qu'identité collective que l'identité d'Israël est éternelle. Les individus peuvent perdre leur mandat de vie. Vous comprenez? C'est la différence. C'est-à-dire, chez l'égoïsme, on trouvera des perles. On trouvera des perles, mais Israël, c'est un collier. C'est très différent. Oui. Voilà. Ça veut dire que c'est cette chose exceptionnelle. Moi, j'ai un critère que je vous proposerai. Mais la Torah a donné des lois pour ça. Chassidou Mota Olam, ce sont ceux qui observent ce qu'on appelle les sept lois de Noach, les Shiva Mitzvot Ben Noach. On peut dire de façon très, très approximative qu'ils sont soumis à l'idée de la morale universelle, de la morale élémentaire, de la morale naturelle, à la manière dont nous nous sommes soumis à la Torah. Et en cela, ils sont sauvés. Ils n'ont pas besoin d'être Israël, c'est ce que je voulais préciser. Ils n'ont pas besoin d'être Israël. Mais ce sont des exceptions chez les goyim. Tandis qu'en Israël, c'est l'inverse. C'est le klal qui est kadosh. Et les exceptions, c'est les saïm. À l'échelle individuelle, un juif peut être rachar. Mais à l'échelle collective, il est tzadik. Les goyim, c'est l'inverse. À l'échelle collective, c'est des saïm gourim. Mais parmi eux, comme nation, il y a des individus qui sont des tzadikim. C'est eux qu'on appelle les chassidim matarol. Écoutez, il n'y a qu'à prendre l'histoire tout entière. Je ne sais pas si c'est à vous que j'ai parlé de ces choses-là, peut-être pas. Mais nous sommes, nous les hommes qui avons cru que la France, depuis la Révolution française, qui avons cru que la France était un goy tzadik, comme nation, comme nous avons maintenant la preuve, c'est Bershaïm Gmourim, en tant que tel. Mais il y a, chez ce peuple, comme chez les autres, à l'échelle individuelle, des tzadikim. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors écoutez, je vais peut-être vous étonner. C'est pas une opinion personnelle, mais je vais peut-être quand même vous étonner parce que l'opinion contraire à ce que je vais vous dire est la plus répandue. J'aurais dû dire l'inverse, mais enfin peu importe. C'est que nous avons été empêchés de cela pendant 2000 ans, depuis 2000 ans, et nous avons pris l'habitude. C'est le contraire qui est vrai. Israël a été le seul peuple qui s'est juré de ne reconnaître les dieux de personne et d'imposer son dieu à tous. Il faut le savoir. Et nous avons commencé à faire cela il y a 2000 ans. Et puis nous avons été contrés par par le prosélytisme chrétien qui est devenu la religion impériale et qui a empêché les juifs de faire du prosélytisme. Alors les juifs ont pris l'habitude et ont transformé un empêchement en vertu. Bon, peut-être que nous ne sommes pas encore capables de cela, parce que, bon, on va faire des conversions, nous, on va les mettre. Mais, c'est pas... Non, c'est pas une question de chicouille. Ça, à Midar, on s'est débrouillé. Mais dans quel Beth Knesset vous allez les envoyer? Où? Qui va s'occuper de qui? Essayez d'imaginer que les prophéties concernant cela, et par exemple un verset d'Isaïe qui dit que viendra un jour où 10 goïms s'attacheront au coin d'un manteau d'un juif pour lui dire on va avec toi à Sion parce qu'on sait que la vérité est avec vous. Alors si on pose au Talmud la question suivante, il vous répondra malheureux. Si vous voulez savoir pourquoi cette prophétie ne se réalise pas? Parce que lorsque 10 goïms s'accrocheront au canaf d'un juif, le juif se sauvera, il dira de quoi il parle. Ça veut dire qu'il faut, il faut être capable de ce cas. Ça veut dire, le terme est précis. Canaf canfé, ça veut dire le coin, là où il y a un titi. S'il n'y a pas un titi, c'est pas le... Là, il faut qu'il y ait un titi pour que ça marche. Mais le problème, c'est que il faut savoir que celui qui est censé posséder la vérité ne peut pas ne pas la donner à autrui. Le judaïsme a été militant. Et Yesh mitzvah, l'Echnis Gerim Tahat Kanfa Shechina. On dit à ceux qui descendent de Mizota, avec Sivanou, l'Echnis Gerim Tahat Kanfa Shechina. Seulement, nous avons été empêchés. Et alors, on s'est habitué à cette idée qu'il ne faut pas faire de Yesh. Il faut. Seulement, il faut pouvoir. Il faut être capable. Et je pense que ça reviendra. Non, parce que il faut que ça soit sincère, que ça soit réel.
On doit se convertir entre nous presque, d'abord, à tout moment, en promenant, bien.
Vous savez, je ne sais pas si nous avons parlé ici de cela. Je vais essayer de vous expliquer ça, puis on s'arrêtera peut-être là parce qu'il est tard. Vous savez comment on dit en hébreu, convertir quelqu'un, le rendre Israël, c'est Gaïer. Et au pronominal, c'est les Gaïer. Ça veut dire, regardez ce paradoxe en hébreu. Pour dire que quelqu'un devient Israël, on dit qu'il devient Gaïer, c'est-à-dire étranger. Bizarre. Comment on dit rendre Israël, on dit le Gaïer. Et c'est d'autant plus bizarre qu'il y a une Gemara claire qui dit qu'il est interdit de rappeler à un converti qu'il était converti. C'est interdit de dire à quelqu'un qui est converti, oh, toi, tu étais un gueule. C'est interdit, le Gaïer. Et d'ailleurs, les convertis le savent. Eux-mêmes ne veulent pas se rappeler qu'ils étaient religieux. Et alors, on n'a pas le droit de rappeler à quelqu'un, de lui dire tu étais goy avant d'abord, parce que puisqu'il est devenu, il n'était plus. C'est une personne autre. Et je vous dirai jusqu'où ça va. D'après la Torah, si un frère et une sœur se convertissent au judaïsme, ils pourraient se marier entre eux normalement, puisqu'ils ne sont plus ce qu'ils étaient avant. Les rabbins interdisent. Mais la Torah permettrait. D'après la Torah, si la conversion est vraie, c'est tellement vrai que même un frère et une sœur goy devenus juifs pourraient se marier entre eux. Les rabbins interdisent parce que les goyim ne comprendraient jamais ça. D'accord ? Vous savez ? Alors je voudrais vous expliquer. On a donc une sorte d'équation que, alors, Israël, d'après ce terme, les gaïers, les gaïers. Il faut bien comprendre pourquoi. C'est un privilège. C'est parce que être Israël, c'est être guerre des autres. Devenir Israël, c'est devenir guerre des nations. C'est devenir le guerre des nations. Est-ce que c'est bien clair? Israël est la seule identité humaine qui a accepté le statut de l'étranger. Donc devenir Israël, ça veut dire devenir guerre. C'est pourquoi on dit les gaïers. Mais ça, c'est l'humour, c'est plus que l'humour, c'est la kedusha de la langue, c'est la chana kodesh. Ça veut dire, un goy vient en Israël et qu'est-ce qu'on lui dit? Tu es enfin un guerre. Alors qu'il croyait que c'était avant qu'il était guerre.
Guerre,
c'est que.
Je n'ai
pas compris. Un
exemple de zéro.
Dire guerre, c'est-à-dire de souvent. Ah, zéro, alors. Guerre, ça veut dire. En hébreu? Ça veut dire séjourner. Ça veut dire la goutte. Il y a un midrash des chassidim à propos d'un verset. Dieu dit à Israël qui guérit Metoshavim Atem Imadi. Ça veut dire vous êtes guéri Metoshavim, étranger, séjournant avec moi. Déjà Abraham avait dit de lui-même qui guérit Metoshav Anochi Imachem, à la fois guérit Metoshav. C'est un thème extrêmement important. Partout, nous avons été à la fois Toshavim et Guérim. Et même ici. Là-bas, nous étions Guérim de notre statut réel. Et là-bas, disons par exemple en France, nous étions les Guérim par rapport à la France. Mais nous étions Toshavim aussi, puisqu'on était citoyens. Ici, nous sommes Toshavim, puisque c'est chez nous. Mais on nous considère comme Guérim. Bon, on se demande qu'est-ce que les Juifs viennent faire en Judée. Je ne sais pas si vous le savez. C'est-à-dire, c'est un statut qu'Israël a. Qu'il soit dans la Galoute, qu'il soit chez lui, il est à la fois guerre et tosha. Et alors, ici ça s'inverse. On est tosavim chez un guérim, l'avant on était guérim chez un yotzim. Et alors les chassidim expliquent comme cela, c'est la chita de la Nachman de Bratislava, qui explique comme ça, voilà ce que Dieu dit à Israël, en lui disant vous serez guérim et tosavim avec moi. Avec moi. Si vous vous considérez comme guérim, alors moi je me considère comme tosav. Si vous considérez comme tosavim, alors moi je me considère comme guérim. C'est joli ce mélange. Alors, c'est la raison pour laquelle Israël a accepté les statuts du guerre pour que Dieu soit tosav. Alors donc, lorsqu'un goy vient en Israël, on dit, allez, maintenant tu es guerre. Tu as demandé. Bien. Eh bien, on va s'arrêter là. Alors, en principe, ce serait le dernier mardi du mois prochain. Thank you.